Turning today to the Gospel of John, chapter 3 and verse 13.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 13. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 13. Or personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, à savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et notre sujet, c'est l'appel de Christ aux âmes. Et nous voyons ici notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui parle à Nicodème, qui l'interpelle. Nicodème est un pharisien qui est membre du conseil du Sanhédrin des Juifs, qui fait partie du gouvernement et qui est venu à Christ. Je ne vais pas récapituler notre étude précédente. Et Christ lui a montré la nécessité absolue de la nouvelle naissance, cette grande transformation que le Saint-Esprit fait dans le cœur, la vraie conversion à Dieu. Et tout ceci est extraordinaire pour Nicodème. Il croit profondément que par sa race, les Juifs sont dans leur être même, dans leur nature même, le peuple de Dieu accepté par lui, et qu'ils vont aller au ciel d'une manière sûre, et que pour être vraiment accepté par Dieu, pour avoir sa faveur, il faut garder méticuleusement les rites des lois cérémonielles juives. C'était là sa conviction. C'était un homme de grande sagesse, de grande connaissance, je suis sûre, un chef des Juifs expérimenté. Il était expert dans l'Ancien Testament, dans la loi de Dieu, mais il n'avait pas connu la grâce. Il n'a pas réalisé que la grâce a été publiée par Dieu dès le début de la parole de Dieu. Que Dieu dit que pour être accepté par Dieu, ceci est donné comme un don libre qui est donné aux hommes et aux femmes qui viennent à lui et qui se repentent. Il n'a pas réalisé cela parce qu'il pense que le salut est par les œuvres. Et nous avons vu comment Christ s'est adressé à lui. Et au verset 10, Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, un enseignant en Israël, et tu ne sais pas ces choses. » C'est la manière dont Christ lui dit, « Oh, tu aurais dû savoir ces choses, parce qu'elles ont été révélées dans les Écritures, elles sont là, et tout le monde peut les voir. » Et à présent, Christ continue en lui disant comment il doit venir. Et il l'appelle, il l'interpelle lui-même. Et nous voyons là au verset 13, nous continuons dans cette rencontre entre Nicodème et Christ. Et les paroles de Christ, « Or personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel. » Et mon premier point, c'est que Christ dit à Nicodème que le salut a toujours été pour les individus par la foi. Et ceci a toujours été le chemin de Dieu. Qu'en est-il de Dieu qui œuvrait dans la nation juive dans l'Ancien Testament? Oui, il les a bénis puissamment et il les a sélectionnés eux pour être le peuple par qui il va révéler sa vérité et à qui il a promis le Sauveur. Il y avait cette alliance extraordinaire en particulier pour eux en tant que nation. Et cependant, même en ces jours-là, cela ne signifie pas que toute cette nation, chaque personne avait une relation vraie, véritable avec le Dieu vivant. C'était toujours une foi personnelle et chercher le Seigneur personnellement. Et c'est là l'œuvre de Dieu dans le cœur. Ainsi, Christ donne ses paroles. Pourquoi ces paroles? Personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel. Ces paroles était bien connu de Nicodème. Il savait d'où elle venait et j'aimerais lire le texte auquel le Seigneur se réfère, c'est Deutéronome chapitre 30. C'est Moïse qui parle ici, qui est un homme âgé, il a 120 ans, et il donne sa prédication finale, plein d'amour et de ferveur. Dans Deutéronome 30, versets 11 et 12, il prêche ainsi. Car ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est point trop élevé au-dessus de toi et n'est pas éloigné. Il n'est pas dans les cieux, pour qu'on dise « Qui montera pour nous aux cieux ?» et nous l'apportera, et nous le fera entendre pour que nous le pratiquions. Et ceci a deux sens. Qui montera pour nous aux cieux ou qui peut monter aux cieux? Qui peut dire cela? Pour nous apporter la vérité, pour nous dire ce que nous devons faire? Nous n'avons pas besoin de cela, dit Moïse, parce que je vous dis ce que vous devez faire. Dieu vous parle par moi. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'aller au ciel pour trouver les informations là. Comment est-ce que nous pouvons avoir cette communication avec notre Dieu, cette communion avec lui et cette relation avec lui? Et il y a également un deuxième sens. C'est que l'homme ne peut pas mériter son passage vers le ciel et grimper sur cette montagne sainte pour se présenter dans la perfection, dans la justice. Il ne peut pas faire cela. L'homme est pécheur. Il ne peut pas garder la loi de Dieu. Il ne peut pas garder les critères moraux de Dieu, il ne peut pas grimper au ciel, monter là et recevoir la faveur de Dieu. Non, c'est Dieu qui va se donner lui-même et qui va donner le pardon et l'amour si vous croyez en lui. Et Moïse utilise ces paroles pour expliquer cela, que le salut est par la grâce. Ainsi, Deutéronome 30, verset 12, « Il n'est pas dans les cieux pour qu'on dise qui montera pour nous aux cieux et nous l'apportera pour nous le faire entendre, pour que nous le pratiquions. » Dans tous les sens de ce terme, il n'est point non plus au-delà de la mer. Vous n'avez pas besoin d'aller trouver ces informations d'une autre nation pour qu'on dise qui passera pour nous au-delà de la mer et nous l'apportera. Et au verset 14, c'est là ce que Moïse prêche au peuple, car cette parole, la parole dont nous avons besoin, est fort près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu l'accomplisses. Vous avez entendu cette parole de ma bouche et vous pouvez écouter. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. Ce sont des paroles extraordinaires. Moïse, à la fin de sa vie, a donné une sorte d'alliance parallèle aux enfants d'Israël, qui commence dans Deutéronome 29, le chapitre précédent. Ces paroles extraordinaires, ce sont là les paroles de l'alliance que l'Éternel commanda à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux en Horeb, à côté de l'autre alliance, en parallèle. Ainsi, il y a eu les commandements qui ont été donnés aux enfants d'Israël, obéissez aux commandements et ceci plaira au Seigneur. Mais il y a une autre alliance en parallèle et c'est là l'alliance que Moïse prêche. Il a prêché cette alliance durant toute sa vie, mais si clairement à la fin de sa vie ici. Et il leur explique ce qui est appelé de manière traditionnelle l'alliance évangélique. Ceci, c'est votre cœur, vous devez aimer le Seigneur, le chercher, vous confiez en lui, lui obéir, vous devez avoir la circoncision non seulement du corps, mais du cœur, et le connaître, et avoir cette relation avec lui. Et pour revenir aux paroles de Christ, dans Jean chapitre 3, verset 13, « Or personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel. » Maintenant, il accomplit l'enseignement de Moïse. « Celui qui est descendu du ciel, à savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Il commence à expliquer à Nicodème, à dévoiler à Nicodème que le salut est non seulement libre, que l'on ne peut pas le mériter, mais qu'il est par grâce. Le prix a été payé par le Fils de l'homme. Nicodème ne va pas comprendre ces choses à ce moment-là. Peut-être qu'il ne va pas le comprendre entièrement avant le moment où Christ va à la croix du calvaire. Et là, il réalise ce que Christ voulait dire, comme les disciples. Ils n'ont jamais compris l'expiation avant que la croix du calvaire ne se réalise. C'était un mystère pour eux jusqu'à ce moment-là. Ils se confiaient en Christ comme Messie, mais ils n'ont jamais réalisé ces paroles qui leur enseignaient qu'il sera crucifié, mis à mort, et ce qu'il allait faire à la croix du calvaire avant le jour où ceci s'est accompli. Peut-être de même pour Nicodème. Et ce message était un message qui allait porter son fruit plus tard. Or personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, c'est très probable que Nicodème croyait. Ce que beaucoup de Juifs croyaient à l'époque, que le Messie n'était pas un individu, mais qu'il était leur nation d'Israël, le peuple juif, que d'une certaine manière, en tant que nation, ils seront le sauveur du monde. Et Christ, même si ceci est le cas, le reprend en cela. Personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, à savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Peut-être que Nicodème est surpris quand il entend ces paroles, mais il sait très bien, alors que le temps passe, que Christ se décrit lui-même comme étant le Fils de l'homme. Et c'est ce qu'il fait même plus tard, même dans ce passage. Et il va se réveiller de plus en plus et graduellement pour réaliser le sens de ces paroles. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, mais le Fils de l'homme était sur terre et il parlait à Nicodème. À ce moment-là, c'est là le récit de leur rencontre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est mystérieux, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oui, bien sûr, comme les prédicateurs d'autrefois le disaient, il est sur terre et il est au ciel en même temps. Bien sûr, il est au ciel, dans sa nature humaine et dans sa nature divine, il est sur terre, mais sa nature divine est dans les cieux également. Il est au ciel également en même temps. Dans cet état céleste, son intérêt est au ciel. Il suit les desseins célestes dans des choses si profondes, dans un sens si profond. Le Sauveur était au ciel, même alors qu'il était sur terre. Et Nicodème doit méditer sur ces paroles. C'est là la première déclaration. Le message ici, c'est que le salut a toujours été un salut personnel, une expérience personnelle, que l'on s'approprie par la foi en se confiant en Christ même, si l'on retourne à la prédication de Moïse. Et lisez un peu Romains chapitre 10 que nous avons lu dans notre lecture de la parole de Dieu. L'apôtre Paul utilise ce passage de la même manière exactement, verset 5. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui fera ces choses vivra par elle. Mais, on parle encore de Moïse ici, la justice qui vient de la foi, en se confiant en Christ, dans un Sauveur, dans la miséricorde de Dieu, parle ainsi. Et il cite Moïse ici, ne dis point en ton cœur qui montera au ciel. Ensuite, il insère ces paroles, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? Il cite à nouveau ici, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Voilà la parole de la foi que nous prêchons, il rajoute. Elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et là, il souligne les paroles de Moïse. Moïse prêchait l'évangile, dit Paul. Il prêchait la loi qui humiliait le peuple juif, qui devait les humilier pour qu'ils puissent réaliser qu'ils ne pouvaient pas garder la loi de Dieu, qu'ils avaient besoin de quelque chose d'autre. Et alors il a prêché la grâce qui amenait le salut librement par la foi en Christ, qu'ils pouvaient entendre. Ainsi Paul fait la même chose que le Sauveur, il prend ses paroles que Nicodème connaissait, ces paroles de Moïse. Et ensuite, j'en reviens à Jean chapitre 3, au verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et là, il se réfère au passage, au récit de Moïse, que vous trouvez dans le livre des Nombres, chapitre 21. Les serpents brûlants. Et comment les enfants d'Israël ont péché, ont murmuré contre Dieu, contre Moïse. Et le Seigneur a envoyé les serpents parmi eux, et ils mouraient. Et Moïse, le Seigneur lui a dit de faire un serpent d'airain sur une perche. C'était une image du Sauveur qui allait venir. Et que tous ceux qui regardaient à ce serpent allait être guéri, et ceci s'est passé. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il dit ceci à Nicodème. Oui, peut-être qu'il n'a pas compris entièrement ceci, mais il comprendra plus tard, alors que ces événements se sont passés quand Christ est allé à la croix du calvaire. De même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il doit y avoir une crucifixion publique de Christ, non seulement publique dans ces jours-là, mais le Fils de l'homme doit être élevé dans chaque pays, dans chaque nation, dans chaque génération, dans chaque période de l'histoire, pour que tout le monde sache que Dieu a envoyé un sauveur. Et c'est le cas. Et même dans les écoles islamiques, dans le monde islamique, les enfants vont apprendre de Christ, de sa mort à la croix du calvaire. Même si c'est un événement qui est critiqué et dont ils se moquent, cependant, dans tout le monde entier, Christ publiquement sera élevé. Afin que, verset 15, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ceci, c'est par la foi, en croyant en Christ. C'est là mon deuxième point. Christ donne à Nicodème une notion de cet amour incomparable de Dieu. Le salut n'est pas en gardant la loi cérémonielle. Si vous êtes un Israélite qui vit sous l'Ancien Testament, vous devez garder les rites de la loi cérémonielle parce qu'elle vous enseigne. Et les sacrifices et toutes ces choses, d'une manière méthodique et détaillée, enseignent les principes de la grâce, de la miséricorde, de la sainteté de Dieu, du besoin d'une expiation par le Sauveur. Mais quand Christ est venu, alors tout ceci est amené à une fin. Ce qui est important, c'est de croire même sous la loi de l'Ancien Testament. Et les œuvres, ceci fait partie d'une illustration pour vous enseigner, mais ne vous donne pas le salut et le ciel. Et c'est là ce que le Seigneur dit à Nicodème, au verset 15, afin que quiconque croit en lui, en la miséricorde de Dieu, dans cette promesse du Sauveur dans l'Ancien Testament, dans ce Sauveur qui est venu après la venue de Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, quelle parole que celle-ci! Verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. J'ai parlé de ceci récemment dans une réunion d'évangélisation et je ne vais pas en parler de la même manière aujourd'hui. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est l'immensité de son amour, la profondeur de son amour qui est l'amour du Père. Oui, Dieu le Père a tant aimé le monde. Mais ce qui est dit du Père est vrai du Fils et du Saint-Esprit également, bien sûr, car les trois personnes de la Trinité glorieuse qui sont distinctes, différentes et qui ont différentes tâches, cependant, les trois personnes sont la même essence divine qui ressentent la même chose. Ainsi, si Dieu le Père a tant aimé le monde, bien sûr, le Fils et l'Esprit également. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quel amour que celui-ci! C'est un amour qui se donne, un amour de sacrifice. Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est un degré d'amour exceptionnel. C'est un amour éternel, oui, mais un amour qui va aller si loin jusqu'à envoyer le Fils pour nous représenter, nous, pour qu'il soit humilié d'une manière terrible, pour mériter le salut à notre place, pour souffrir, pour mourir dans une agonie terrible, une agonie de son âme, de son cœur, de sa pensée, de son esprit et de son corps également. C'est l'amour du Père qui va donner le Fils pour qu'il soit changé éternellement pour nous. Depuis le jour de l'incarnation, il sera différent pour l'éternité, parce qu'il va porter un corps humain et il sera glorifié. Quelle chose extraordinaire que Dieu le Fils éternel par qui le monde a été créé, égal au Père et également glorieux, qu'il porte un corps humain éternellement pour être mon Dieu visible dans l'éternité, dans la gloire, mon Sauveur visible, celui à qui je peux parler et avec qui je peux être en relation si profonde, si directe. Il a tant aimé qu'il a donné pour mourir, pour souffrir, son Fils unique. Il a tant aimé le monde. Ceci se réfère aux gens, bien sûr, aux individus. Ceci se réfère aux âmes perdues. Comment est-ce que Dieu a pu aimer des âmes perdues? C'était un amour qui a pris la forme de la pitié, de la compassion. Il ne pouvait pas nous aimer comme nous étions. Il ne pouvait pas aimer notre état parce que nous sommes pécheurs. Nous avons offensé Dieu, nous sommes rebelles contre lui. Il ne pouvait pas aimer notre petitesse, notre orgueil, notre tromperie, notre péché. Il ne pouvait pas nous aimer dans notre péché, mais il pouvait avoir compassion de nous, avoir cette grande compassion pour nous. Et il pouvait nous aimer parce qu'il pouvait voir ce qu'il allait faire de nous et comment il allait nous transformer et comment il allait mettre une nouvelle nature en nous, un cœur nouveau, une vie nouvelle. Et comment il allait nous conformer à lui-même et comment il allait nous purifier dans la gloire éternelle. Et il pouvait nous aimer, bien sûr, parce qu'il a aimé tout le dessein de l'humanité. C'était son dessein, même si nous avons chuté loin de lui, dans la ruine, dans le péché. Cependant, nous avions encore cette puissance de raisonner, de penser. Il a aimé toute créature qu'il a formée dans un certain sens. Mais l'homme, l'être humain, tout particulièrement parce qu'il nous a donné la capacité de raisonner, de penser, de réfléchir, la capacité du langage, de la créativité et la puissance d'aimer d'une manière sophistiquée et profonde, de ressentir. Il nous a donné une conscience morale. Il n'a pas donné ceci aux animaux. Il nous a aimés, il a aimé l'humanité, sa création toute particulière et unique. Quand vous lisez dans le livre de la Genèse, le récit de la création, vous pouvez voir comment le monde a été formé étape par étape, pendant 6 jours, étape par étape, entièrement avec à l'esprit l'homme. C'était une création rapide, c'était le dessein éternel de Dieu, une demeure merveilleuse qui a été formée en particulier pour la race humaine. Et il aimait son dessein, son but pour l'homme. Et son désir, c'était de restaurer l'homme après la chute qui a été amenée par Satan, pour que les gens soient transformés et pardonnés. Ainsi, Dieu a aimé les gens, il a aimé, dans un certain sens, le dessein originel du monde, et il voulait restaurer l'homme dans son grand amour. En particulier, c'est un amour individuel pour les gens qu'il va sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il périsse dans le sens, point dans l'annihilation, mais dans le sens de l'absence de vie éternelle, pas de gloire céleste, cette destinée qui est gâchée pour qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ensuite au verset 17, ici il nous parle de la condamnation de laquelle nous avons été délivrés, parce que ce terme « sauvé » va être utilisé. Car au verset 17, la condamnation, car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui, sauvé, secouru de cette condamnation. Ceci est un choc pour Nicodème. La condamnation dont Jésus-Christ parle ici, Nicodème croyait dans la condamnation, il croyait dans un jour du jugement, il croyait dans ce que les Israélites appelaient le jour de Dieu, mais à son esprit, Ceci s'appliquait uniquement pour les nations païennes. Ceci ne s'appliquait pas pour les Israélites. Ceci ne les concernait pas eux, ne le concernait pas lui. Et les autres juifs, c'était pour les païens, pour le monde incroyant, mais pas pour les Israélites. Et Christ va ici le choquer dans ses paroles. Il dit que le salut est non seulement par la grâce, par la miséricorde de Dieu, par sa faveur, et nous ne pouvons pas mériter le salut, c'est un don de Dieu. Non seulement par cette transformation, cette nouvelle naissance, cette vie nouvelle, il a expliqué ceci auparavant, ce n'est pas seulement différent de ce que Nicodème pensait, mais également pour les individus, et non pas pour tous les Israélites, mais pour ces Israélites qui connaissent Dieu personnellement, et qui personnellement ont cette foi en lui, les autres, comme les nations païennes, et ceux parmi ces nations qui n'ont jamais cherché à trouver le Seigneur, sont sous la condamnation. Et ceci est un choc pour Nicodème, car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Écoutez ce qu'il dit au verset 18. Nous parlons ici des individus. Tout ceci parle des individus. C'est là ce que Christ dit à Nicodème. Celui, l'individu qui croit en lui, dans le Messie que Dieu a envoyé, n'est point condamné. Mais celui, l'individu, qu'il soit juif ou non juif, qui ne croit point, est déjà condamné. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Condamné n'aura jamais la vie éternelle. Oui, l'âme vivra, mais où ? Loin de Dieu, sous le jugement de Dieu et la condamnation de Dieu. Et Nicodème pense, oh non, ceci c'est pour les païens uniquement, ce n'est pas pour nous. Non, Christ lui dit non. Celui qui ne croit point, c'est la foi d'un individu. Ceci est par la grâce, non pas en fonction de votre race, c'est pour un individu, non pas pour des nations. Beaucoup d'individus, de toute nation, de tout pays, un grand nombre de personnes, mais un par un, nous venons dans le royaume de Dieu par la foi, par la conversion. Celui qui ne croit point est déjà condamné. Nous sommes sauvés de la condamnation éternelle. Et ensuite au verset 19, c'est là ce que Christ enseigne à Nicodème. Pourquoi refuser de croire ? Pourquoi est-ce que les gens ne croient pas ? Christ explique ceci au verset 19. Et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde. Quel privilège ! Quelle chose extraordinaire ! Le Fils de Dieu lui-même, qui illumine tout homme, qui a mis la conscience dans tout être humain, un instinct pour Dieu, pour l'existence de Dieu, il vient à présent lui-même. Quelle chose extraordinaire ! Le Fils de Dieu Tout-Puissant, le Messie, c'est là la condamnation, que la lumière est venue dans le monde et que les hommes sont si pleins d'insultes contre Dieu, ils ont mieux aimé les ténèbres que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et c'est pour cela que nous ne croyons pas. Chacun d'entre nous, avant que Dieu n'œuvre dans notre cœur, avant la conversion, nous refusons de croire, malgré notre conscience qui nous dit que nous sommes pécheurs devant Dieu, malgré notre instinct pour Dieu que nous voulons mettre de côté et réprimer, nous préférons les ténèbres, nous préférons être loin de Dieu. Et si nous entendons parler de Dieu par un ami, si nous lisons, si nous entendons la prédication qui nous dit que nous sommes loin de Dieu, que nous avons besoin de le chercher, de le trouver, d'abandonner notre vie de péché, alors nous nous disons, mais je veux être loin de Dieu, je veux rester tel que je suis, je veux décider pour moi-même, je veux décider ce que je veux faire dans ma vie, ce que je veux avoir, comment je veux me comporter, ce que je veux. Je ne veux pas être gouverné par quelqu'un d'autre, je ne veux pas être dirigé par Dieu, j'ai peur de lui, je ne veux pas le servir, je veux les choses que je fais. Je ne veux pas rendre compte devant quelqu'un, être sous le jugement et me repentir de mon péché et avoir honte de moi-même. Je veux la liberté de faire tout ce que je veux faire. Et c'est là l'explication et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres, le péché, que la lumière. Je veux cette liberté de garder ma malhonnêteté, mes mensonges, mon orgueil, mon égoïsme, mes ambitions, ma vanité, mes propres chemins, mes opinions, mes idées. Je veux garder tout ceci. Je ne veux pas être soumis à Dieu en vivant pour lui, dans la sainteté, pour l'aimer, pour le servir. Les hommes ont mieux aimé les ténèbres, l'ignorance, le péché, et préfèrent être loin de Christ plutôt que de recevoir la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Nous sommes gouvernés par notre péché, l'amour propre. C'est là ce qui gouverne dans notre vie. Pourquoi préférer ces choses? C'est la corruption de notre cœur, c'est notre état de péché qui est si grand. Pas d'amour pour Dieu, pas de gratitude envers lui, pas d'obéissance, nous ne l'étudions pas, nous ne l'adorons pas, nous ne le servons pas. C'est ainsi que nous voulons vivre. Et au verset 20, « Car quiconque fait le mal est la lumière. » Même des gens comme Nicodème, qui gardaient les lois cérémonielles et les rites d'une manière si méticuleuse en pensant que ces choses allaient l'amener au ciel, mais ne voulaient pas vivre pour Dieu comme il aurait dû. Car quiconque fait le mal est la lumière. Je pense que Nicodème, après cette rencontre avec Christ, était transformé et petit à petit, il a compris. Nous lisons plus tard dans l'évangile de Jean, dans le récit, qu'il est un disciple en secret. Dans le conseil du Sanhédrin, il essaie de défendre Christ. Vous pouvez voir l'œuvre dans son cœur. Et ensuite, à la fin de l'évangile, quand Christ est crucifié avec Joseph d'Arimathée, il cherche à l'embaumer et à le mettre dans un tombeau. Il est un homme transformé. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Quand vous venez à Christ, quand vous venez à Dieu, dans la conversion, il vous reprend pour vos œuvres. Vous êtes convaincu de péché et vous réalisez le mal en vous et vous êtes ouvert pour voir ce qui est péché en vous et nous nous repentons de ce péché. De temps en temps, les gens disent qu'il n'y a pas de repentance dans l'évangile de Jean. Mais nous voyons ici ce langage de la repentance. Christ explique à Nicodème la repentance. Les gens ne viennent pas à moi à cause du péché parce qu'ils ne veulent pas être repris. Ils ne veulent pas être conscients de leur péché. Cela signifie qu'ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas ressentir cette honte pour leur péché et fléchir le genou devant Dieu pour l'implorer pour son pardon. Ceci, c'est le langage de la repentance. Le terme « repentance » n'est pas utilisé ici, mais la repentance est dans ce verset. Au verset 20, « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. » Et ensuite, l'exhortation finale, alors que nous en arrivons à notre conclusion. De Christ à Nicodème, verset 21, « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. » Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Christ dit, Nicodème, tu penses qu'en obéissant la loi cérémonielle, tu fais la vérité. Mais comme je t'ai montré dans Deutéronome chapitre 30, non pas qu'ils avaient des chapitres à ce moment-là, et dans Nombre 21 également, celui qui obéit à ses paroles ne se confie pas dans sa pratique des rites, mais il vient à Dieu, il s'humilie, il se repent de son péché, il cherche le salut qui est libre par grâce. Moïse a enseigné le salut par la foi. Christ est enseigné là dans Nombre 21. Regardez à Christ. C'est plus qu'un regard, c'est un regard de repentance, un regard de confiance, un regard qui se donne à lui. Parce que vous ne pouvez pas mériter le salut, vous ne pouvez jamais mériter le salut. Ainsi, vous devez le recevoir comme un don par la foi en Christ. C'est là ce que Christ a enseigné. Et ensuite, cette exhortation ici au verset 21. Ceci, c'est agir selon la vérité, obéir à ce que Moïse a dit par rapport à chercher cette rencontre personnelle avec Dieu. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Il la voit et il est heureux de cela parce que Christ est venu. Et par lui, nous pouvons être sauvés librement. Et ensuite, nous devons essayer d'obéir à Dieu, de lui plaire, mais nous sommes sauvés par lui, non pas par nos œuvres. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Celui qui agit selon la vérité, selon l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vient à la lumière qui est Christ pour que ce soit manifeste pour tous qu'il est un homme transformé, une femme transformée avec une nouvelle nature et un changement dans son comportement, quelque chose qui a été opéré par Dieu dans son cœur, dans sa vie. Cette personne est transformée. Tout son comportement, sa disposition d'esprit, son attitude dans la vie est complètement transformée. Et c'est là ce qui se passe. C'est l'une des manières par laquelle nous voyons que nous sommes sauvés parce qu'une œuvre est opérée en nous et d'autres personnes peuvent voir cette œuvre. Les parents voient ceci dans leurs enfants qui sont sauvés. Leur comportement est si différent. Cette personne est beaucoup plus polie, se contrôle bien mieux, beaucoup plus douce. Il n'y a plus de colère. Peut-être que de temps en temps, cette personne pêche, mais cette personne est si transformée. Et c'est évident que Dieu a œuvré dans le cœur. Et c'est évident pour nous également, parce que dans le passé, j'aimais mon péché. Et même si je ne suis pas entièrement sans péché, mais je hais le péché maintenant, alors que je l'aimais auparavant, maintenant je combats contre le péché. Auparavant, je commettais le péché sans problème, sans que ma conscience ne parle. À présent, dès que je pêche, oh, ma conscience parle et me reprend. Et combien je cherche le pardon de Dieu. Et c'est évident pour moi qu'il y a une œuvre en moi, j'ai été sauvée. Dans ce petit livret, les 7 signes d'une conversion authentique, j'écris par rapport à William Wilberforce, 6 semaines après sa conversion, il ne savait pas qu'il était converti. Soudain, il écrit dans ses notes personnelles, « Je sais que j'ai été converti parce que je n'ai pas commis mon péché principal pendant 6 semaines. Je sais que Dieu a changé ma vie. » Et nous voyons ceci ici. Celui qui obéit au Seigneur, à son Écriture, celui qui agit selon la vérité, vient à la lumière pour le salut qui est en Christ, afin que ses œuvres nouvelles, sa nouvelle nature, soient manifestées et évidentes pour tous. Parce qu'elles sont faites en Dieu, c'est Dieu qui a fait cette œuvre, c'est Dieu qui a œuvré dans le cœur. Notre temps est passé. Est-ce que vous avez eu dans votre vie cette grande transformation ? Peut-être vous êtes comme Nicodème, vous pensez que d'adorer le Seigneur vous sauve. C'est important d'adorer le Seigneur, mais ceci ne sauve pas. Vous pensez que de vous appeler chrétien, ceci sauve. Non, ceci n'est pas suffisant. Vous avez besoin de la nouvelle naissance. Vous avez besoin de la repentance. Vous avez besoin du pardon de Dieu qui vous est donné librement, que vous ne pouvez pas mériter. Vous avez besoin de vous confier en Christ entièrement. Vous avez besoin de cette transformation dans votre cœur qui est évidente pour vous et évidente pour tous ceux qui vous entourent. C'est là la rencontre de Christ avec Nicodème. L'apôtre Jean conclut ici le récit. Il n'écrit pas comme un journaliste actuel. Il ne vous dit pas ce qui s'est passé pour Nicodème après cette rencontre. Il finit ce récit. Et il passe à la suite. Pourquoi est-ce qu'il ne rajoute pas les détails? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Après, est-ce que Nicodème a été sauvé? Est-ce qu'il n'a pas été sauvé? Parce que ce n'est pas ce qui est important pour nous. L'histoire humaine, ce n'est pas là ce qui est important pour nous. Ce qui est important, c'est le message que Christ a donné. Ainsi, l'apôtre Jean, sous l'inspiration de l'Esprit, ne nous donne pas toute l'histoire humaine. Comme j'ai déjà mentionné dans l'évangile de Jean, vous avez ces indices plus tard que Nicodème a été sauvé. Mais ce qui est important ici, c'est ce que Christ lui a dit. C'est là ce dont nous avons besoin, chers amis. C'est là mon message pour ce matin. Le salut a toujours été pour les individus, un à un, par l'amour incomparable de Dieu, pour nous sauver de la condamnation. Et pourquoi les gens refusent de croire? Et ensuite cette exhortation de Christ à Nicodème. Que ceci soit une bénédiction pour nos âmes.